Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12h.
Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. La disparition d'une légende du cinéma français, Le Mépris, à bout de souffle, c'était lui. Il avait fait tourner Bardot et Belmondo. Jean-Luc Godard s'est éteint, il avait 91 ans. On lui rendra longuement hommage dans RTL Midi à 12h50. Le Comité national d'éthique ouvre la porte à une légalisation de l'euthanasie sous des conditions strictes et relance donc le débat sur la fin de vie. Emmanuel Macron annonce une consultation citoyenne sur le sujet. Et puis un millier de policiers et gendarmes mobilisés ce soir à Marseille pour le match de Ligue des Champions entre l'OM et Francfort.
RTL toujours plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL Midi un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part à Nancy alors que la Gironde est encore en proie aux incendies. Samuel Goldschmidt nous emmènera dans un laboratoire particulier où l'on cherche à mieux contrôler les feux. RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Et toi, tes parents, ils donnent combien? On parlera argent de poche à midi 20. La question du jour sur RTL.fr, parlez-vous du sujet de la fin de vie avec vos proches?
Voilà un sujet qui traditionnellement fait réagir beaucoup à nos auditeurs. Ils nous en parleront tout à l'heure. L'argent de poche, bien sûr. Et puis, peut-être Stéphane Boustoc restera-t-il avec nous, avec les auditeurs, parce qu'on évoquera la mémoire de Jean-Luc Godard.
Avant ça, la météo avec vous, Peggy Broche, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
En un mot, cet après-midi, gris?
Gris et surtout orageux.
Merci Peggy, la météo complète évidemment à la fin du journal.
RTL Midi.
Tu vois mes pieds dans la glace?
Oui.
Tu les trouves jolies mes fesses?
Oui.
Brigitte Bardot dans Le Mépris, film culte de Jean-Luc Godard dont on a appris la disparition ce matin. Le cinéaste, figure de la nouvelle vague, avait 91 ans. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
On va lui rendre évidemment hommage tout au long de ce RTL Midi, en longueur, on l'a dit dans Laissez-vous tenter, à 12h50, car Stéphane, c'est un monument du cinéma français qui s'éteint.
Vous savez, en fait, Godard n'aura vécu que par et pour le cinéma. Il a épousé toutes ses formes, repoussé tous ses contours. Il a été critique, comme quoi ça mène à tout, puis auteur, réalisateur, producteur, monteur, parfois acteur. Avec Truffaut, Chabrol, Romère ou Rivette, il a inventé une autre façon de faire du cinéma. On a appelé ça la nouvelle vague et ça a tout changé en 1960.
New York Herald Tribune.
Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope.
Qu'est-ce que c'est l'horoscope?
L'horoscope, c'est l'avenir. Alors tu veux venir à Rome?
Mais je ne peux pas, Michel. Je dois m'inscrire à la Sorbonne.
Pourquoi tu mets jamais de soutien-gorge?
Écoute, parle pas comme ça.
Bon, je m'excuse.
À bout de souffle, Jane Seberg, Jean-Paul Belmondo, Romance impossible, Noir et blanc, ça devient d'emblée une référence. Godard va marquer la décennie avec des films comme Pierrot le fou, toujours avec Bebel, mais aussi Anna Karina, qui deviendra sa femme, ou encore Le Mépris, on l'entendait, avec Bardot. Et bizarrement, mai 68, dont il s'affiche comme un des emblèmes, brouille son image, il s'isole dans le maoïsme radical. Ses films ne rencontrent plus le public. Il faut attendre la fin des années 70 et les années 80 pour que, sauf qui peut la vie avec Huppert, Détective avec Johnny, ou Nouvelle Vague avec Delon, fasse de nouveau de son cinéma un événement.
Vous n'avez rien compris à mon silence. Vous parlez, vous parlez. Comment pourriez-vous comprendre qu'il y a des autres? Des autres qui existent, qui pensent, qui souffrent, qui vivent. Vous ne pensez qu'à vous.
Et puis au tournant des années 90, faut le dire, hein, le cinéma de Jean-Luc Godard va devenir de plus en plus expérimental, éloge de l'amour, socialisme, adieu au langage, le livre d'images sont des objets fascinants mais opaques. Quand le Festival de Cannes lui décerne une palme d'or d'honneur spécial, c'est par téléphone portable qu'il s'exprime, estimant qu'il n'a plus à venir sur la croisette, je cite, puisqu'il l'a déjà fait. Godard laisse une œuvre contrastée, reflet parfois daté de son époque, mais qu'on l'apprécie ou pas, oui, elle a changé le cinéma.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock et à tout à l'heure.
RTL Midi.
C'est un débat douloureux qui renvoie à l'intime, qui s'ouvre après l'avis du Comité national d'éthique sur la fin de vie.
Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé une large consultation citoyenne sur le sujet, dans la foulée, vous le disiez, de la publication ce matin de l'avis du Comité national d'éthique, qui pour la première fois, Odile Pouget, ouvre la voie à la légalisation de l'euthanasie.
Oui, même si les sages préfèrent parler d'une aide active à mourir, cette possibilité concernerait des malades qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui, parce que leur pronostic vital n'est pas engagés à court terme et qui ne peuvent donc pas bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Des personnes atteintes de maladies graves, incurables, qui souffrent par exemple de cancer, de pathologies dégénératives et qui vont mourir dans quelques semaines, quelques mois et dont les souffrances insupportables, physiques, psychiques, ne répondent à aucun traitement.
Et on imagine, Odile, que les critères sont stricts.
Oui, le comité d'éthique pose de très nombreux garde-fous. La demande doit émaner d'une personne majeure. Elle doit être libre, en dehors de toute pression, éclairée, constante, réitérée. Elle doit faire l'objet d'une lettre écrite, argumentée. Décision reviendra au médecin en charge du patient à l'issue d'une procédure rassemblant d'autres professionnels de santé. Là, on parle de suicide assisté. C'est le malade lui-même qui s'administrerait le produit létal. Pour les malades qui ne peuvent plus accomplir ce geste, c'est le médecin qui le ferait. Et là, on parle bien sûr d'euthanasie, avec la mise en place réclamée par le comité d'éthique d'une clause de conscience pour les médecins, accompagnée d'une obligation d'adresser le patient à un autre praticien en cas de refus.
Les explications d'Odile Pouget. On sera avec le rapporteur de cet avis, Alain Claisse, à 12h40.
Gaël Perdriau en garde à vue dans l'affaire de la sextape, comme deux membres de son cabinet et deux autres protagonistes. Le maire de Saint-Étienne accusé de chantage aggravé par son ex-premier adjoint Gilles Artigue. Gaël Perdriau lâché aussi par son camp, visé par une procédure d'expulsion du parti LR. On reviendra longuement sur cette affaire et les derniers développements à la fin de ce journal.
Encore 1800 hectares brûlés. La Gironde est une nouvelle fois en proie aux flammes.
Plus de 500 personnes ont dû être évacuées à Somos, près de Lacano, où le feu n'est toujours pas maîtrisé. 4 habitations ont été détruites. On déplore un blessé léger chez les pompiers. Pompiers que vous avez pu accompagner en opération sur le terrain, Philippe Demaria.
Ah oui, tout autour de Somos, sur des kilomètres, la forêt est tout simplement ravagée, les pins fument encore, des flammes sont ravivées par les bourrasques de vent. Ces pompiers des Deux-Sèvres ont travaillé toute la nuit.
On va traiter ces lisières-là apparemment pour éviter une reprise cet après-midi, parce que la météo ne doit pas être favorable pour nous cet après-midi.
Sur la piste bordée d'arbres calcinés, Véronique, qui habite à peine à 100 mètres, apporte un remontant.
Là, on amène le café pour essayer d'aider, pour remonter le moral.
Et elle a refusé hier d'évacuer et la nuit a été particulièrement angoissante.
On avait très peur parce qu'il y avait des explosions. Je pense les tracteurs et les bouteilles de gaz. Donc on avait très très peur.
Vous n'avez pas dormi, évidemment?
Bah, pas trop. On a les escarbilles, ce qu'on appelle les escarbilles, qui sautent sur la propriété. D'accord. Donc on n'est pas à l'abri qu'elles soient chaudes et que ça repart.
Vous ne voulez pas évacuer?
Ben non, c'est votre maison, donc on n'a pas envie.
Et les officiers du SDIS 33 disent redouter des reprises de l'incendie dans l'après-midi avec le renforcement du vent, ici à Somos.
Philippe Demaria en Gironde pour RTL. La France va saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies après les affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Près de 50 soldats arméniens sont morts ces dernières heures. Les deux pays se disputent toujours la région du Haut-Karabakh. Un millier de gendarmes et policiers mobilisés ce soir à Marseille pour le match de Ligue des Champions face aux Allemands de Francfort. Match à haut risque alors que 8000 supporters allemands sont attendus et qu'une rixe a déjà éclaté en ville la nuit dernière. Pour ce qui est du football, le vrai, le volet sportif, ne ratez rien de la rencontre, commentez en intégralité sur notre site rtl.fr. L'avant-match, c'est d'ailleurs dès 20h et des points, évidemment, dans tous les flashs sur l'antenne. La météo, on vous retrouve comme premier, Peggy Broche. Vous nous avez dit un après-midi gris et orageux, c'est
exactement,
ça?
Exactement, Céline. C'est vrai que le ciel est chargé sur la majeure partie du pays. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. La seule région, les seules régions où il y a du soleil et où ça va résister, c'est sur la façade est. Ailleurs, de la grisaille, des gros nuages, de la pluie, des orages, il y en a pour tout le monde. Des averses orageuses qui se mettent en place cet après-midi, elles seront bien actives, surtout sur le Languedoc. Des averses orageuses également entre les Pyrénées et le Massif central en allant vers le Grand Est, et ça peut donner de la grêle en soirée. Et des pluies bien marquées entre le Poitou, donc dans l'après-midi, et ça ira jusqu'à l'Île-de-France en soirée également, de fortes pluies par moment. Ça reste couvert sur les bords de Manche avec des averses. Le tout sous des températures qui étaient bien douces, hein, déjà ce matin. On a eu 20 degrés à Brest.
Oui.
C'était assez exceptionnel.
C'était très doux ce matin.
De 22 à 27 degrés près de la Manche cet après-midi, 26 à 30 degrés ailleurs et 30 à 33 degrés dans le sud-ouest.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, effectivement, un jour chez vous, chaque jour l'info au plus près de vous.
Avec nos correspondants qui quadrillent le pays, aujourd'hui direction Nancy en Lorraine pour vous retrouver. Samuel Goldschmidt, bonjour.
Bonjour.
Et à l'heure où les incendies font à nouveau la une de l'actualité, on en parlait dans le journal en Gironde, à l'autre bout de la France, dans le laboratoire du CNRS que vous avez visité à Nancy, donc on analyse les feux de forêt pour apprendre à mieux les maîtriser.
Et ça se passe dans un hangar discret aux portes de Nancy. Le plafond de tôle est bien noirci parce que l'enseignant-chercheur Anthony Collin et son équipe allument ici volontairement des feux de la pyramide, de la pyromanie pour la bonne cause.
L'objectif premier, en fait, c'est d'étudier vraiment comment se fait la propagation de l'incendie quand il attrape de la végétation. Parce que l'objectif, c'est de voir quelle va être sa propagation dans le temps, de façon à savoir dans une heure, trois heures, quels vont être les endroits qui seront impactés, de façon à donner des informations aux opérationnels pour prendre en charge rapidement des évacuations, par exemple, de camping, comme on a pu connaître cet été.
Et dans ce hangar, Samuel, on brûle vraiment des choses? Qu'est-ce qu'on allume?
Alors, par exemple, du laurier, là, des frisures de pin venues d'une menuiserie. On va allumer un feu de brindille d'à peu près 1 mètre carré sur cette table inclinée.
Là, c'est allumé. Et voilà. Donc, on a initié, en fait, notre feu. La propagation commence à démarrer.
J'ai à peu près regardé, c'est quasiment terminé. Ça a mis 25 secondes à brûler entièrement.
Oui, et ça, c'est pour les feux vraiment les plus lents.
Il y a aussi un tunnel équipé de 5 ventilateurs.
Par exemple, là, on va allumer un des ventilateurs.
C'est juste un.
Ça, c'est juste un. Ça va pouvoir avoir une action directement sur notre front de flamme. Et donc, du coup, les vitesses de propagation, là, vous pouvez dépasser le 10 cm par seconde.
Cet été, par exemple, les chercheurs ont fait brûler une haie dans ce tunnel pour voir à quelle distance le feu pouvait endommager une maison. Et attention, les feux sont filmés, mesurés. On détecte les flux de chaleur, leur vitesse, leur direction pour apprendre à les prédire.
Samuel, vous connaissez le mot célèbre du général de Gaulle, des chercheurs qui cherchent, on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Alors est-ce que ces chercheurs qui cherchent, est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose?
Oui, ces recherches ont des résultats très concrets. Par exemple, cette nouvelle lance à incendie qui est en train d'être mise au point.
Cette année voit l'émergence en fait d'une nouvelle lance qu'on appelle la lance diphasique. Donc l'objectif en fait, c'est de remplacer les lances traditionnelles qu'ont les sapeurs-pompiers par une lance qui apporte de l'air sous pression et de l'eau sous pression. Le mélange un petit peu magique au travers de cette lance-là, c'est qu'on va créer des gouttelettes qui sont très fines.
Un brouillard qui étouffe beaucoup mieux le feu. Si on savait d'ailleurs en projeter suffisamment loin depuis un canadair, ce serait l'idéal. On n'en est pas là, mais le laboratoire de Nancy a un effet concret sur la lutte contre les incendies.
Merci beaucoup Samuel Goldschmidt.
Vous le savez, chaque jour après le journal, on s'arrête pour développer l'un des titres de l'actualité du jour. Et dans un instant, on revient sur cette affaire sidérante de la sextape de Saint-Étienne.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Ces accusations sont ignobles. On a bafoué mon honneur, celui de ma famille. Tout cela est faux. À ce stade, je n'ai pas encore été reçu par la police et je souhaite réserver mes propos à la justice.
C'était le 1er septembre dernier. Gaël Perdriau réagissait au micro RTL de Bertrand Frachon à l'affaire de la sextape. Aujourd'hui, il est donc placé en garde à vue, complètement acculé. L'espoir de la droite est aussi lâché par son camp. LR a lancé la procédure d'exclusion. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en Auvergne-Rhône-Alpes et vous suivez cette affaire avec vous, Alice Moreno, en studio du service police-justice. Bonjour Alice.
Bonjour.
On va revenir sur ce qui s'est joué ces dernières années dans le secret de l'hôtel de ville stéphanois. D'abord Alice, de quoi on parle, cette sextape, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est un film tourné en 2014 sur lequel apparaît l'ancien premier adjoint à la ville de Saint-Étienne, Gilles Artigue, quinquagénaire marié, père de famille et connu pour ses idées très conservatrices. Et bien, sur ces images, il est en compagnie d'un jeune escort boy dans une chambre d'hôtel. Ce rendez-vous aurait été organisé par d'autres adjoints à la mairie qui auraient placé une caméra dans la pièce à l'insu de Gilles Artigue, l'adjoint qui dit avoir été drogué puis piégé. Il a déposé plainte visant le maire de Saint-Étienne et deux de ses adjoints.
Et qu'est-ce qu'on reproche justement à Gaël Perdriau, le maire ?
Eh bien, potentiellement d'avoir eu l'idée de cette vidéo, de l'avoir commanditée, ou à minima d'avoir eu connaissance de son existence et de n'avoir rien fait. L'objectif, utiliser ce film pour faire chanter l'adjoint Gilles Artigue. Il représentait alors un opposant avec de grandes ambitions à l'échelle locale. Depuis la révélation de l'affaire par Mediapart, les versions du maire Gaël Perdriau évolue. D'abord, il assure, martèle, qu'il n'est au courant de rien. Puis, après la diffusion d'un premier enregistrement dans lequel il évoque la sextape, il admet avoir été informé de simples rumeurs à ce propos. Enfin, hier, Mediapart diffuse des conversations qui accablent le maire. On entend distinctement les voix du maire, de son directeur de cabinet et de Gilles Artigue en 2017 et 2018. Écoutez.
Vous trouvez que c'est normal de filmer les gens comme ça?
Continue comme ça, Gilles.
Le chantage politique, c'est 2 ans de prison.
Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage, hein. C'est l'exécution.
Tu sais très bien que c'est une mise en scène odieuse.
Celle que tu as vue?
Oui.
Mais le film complet, c'est pas une mise en scène. On n'est pas obligé de diffuser publiquement, hein, en petit cercle avec parcimonie. Au bout d'un moment, plus rien à faire.
Et je pense que vos enfants s'en remettront pas.
Nous avons contacté hier soir l'avocat du maire de Saint-Étienne qui n'a pas souhaité réagir après la révélation de cet enregistrement. Gaël Perdriau est entendu en ce moment même par les enquêteurs ainsi que 4 membres de son cabinet protagonistes de l'affaire.
Et ça dure depuis longtemps.
L'affaire, absolument. Je vous le disais, la vidéo a été tournée, aurait été tournée en 2014. Et Gilles Artigues, qui se présente en tant que victime, a finalement démissionné de ses fonctions en mai dernier. Le chantage, s'il est avéré, aura donc duré 8 longues années. Pas moins de 3 juges d'instruction ont été désignés pour mener les investigations. C'est beaucoup. Les domiciles du maire, de ses adjoints, la mairie elle-même ont été perquisitionnés. Du matériel informatique, notamment, a été saisi. Les enquêteurs ont énormément d'éléments à exploiter.
Merci à Alice. On vient vers vous Frédéric, on imagine que ça a fait l'effet d'une déflagration sur place ces révélations. Comment réagit la classe politique locale ?
Eh bien, on va d'abord commencer par l'opposition, les 12 élus d'opposition, socialistes, verts et écologistes, qui demandent le retrait du maire, pas sa démission. Non, pour l'instant, qu'il passe le flambeau à son premier adjoint, par exemple, provisoirement, le temps de l'enquête pour le bien des Stéphanois, comme l'explique Isabelle Dumestre et l'UPS.
C'est justement l'enquête qui nous dira si c'est lui qui l'a commandité directement ou pas. Là, clairement, depuis 2017, non seulement il sait, mais il semble vouloir l'utiliser à des fins politiques. Mais par contre, il y a une chose qui est certaine sur le plan moral, c'est qu'il savait et que non seulement il n'a pas protégé son premier adjoint, mais il a laissé faire et il a utilisé ça pour amplifier le chantage dont était déjà victime son adjoint.
Il faut qu'il cesse d'exercer des fonctions de maire.
Ah oui, là je pense que vu les dernières révélations d'hier, il faut qu'il se consacre complètement à sa défense et que ses intérêts ne sont pas ceux de la ville et ne sont pas ceux de la métropole. Qu'il laisse d'autres gérer la mairie de manière plus sereine et puis si effectivement il est blanchi par la justice, il pourra revenir la tête haute.
Voilà, c'est intenable pour Gaël Perdriau de rester maire et président de la métropole de Saint-Étienne, selon l'opposition, pour des raisons éthiques, mais aussi pratiques, de gestion ou de représentation, par exemple.
Merci beaucoup Frédéric Perruche et merci à Alice Moreno.
Histoire tout à fait étonnante sur laquelle vous pourrez bien sûr réagir durant les auditeurs ont la parole, notamment si vous habitez Saint-Étienne. Quel est votre sentiment si vous êtes stéphanois? Dans un instant, RTL Midi Votre Vie, combien vous donnez à vos enfants l'argent de poche? Alors effectivement, vous faites piéger parfois par vos enfants parce qu'ils vous disent oui, mais la famille d'à côté en donne plus. On parle argent de poche dans une seconde.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie tous les jours vers 12h22, car l'info c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui,
la rentrée scolaire va rapidement poser aux parents le délicat problème de l'argent de poche. Un jeton de téléphone pour demander une recette de version latine, 150 francs pour aller au cinéma, voir un de ces westerns qui vous font oublier l'amertume d'une mauvaise note, les classiques distractions, baby-foot, jukebox.
Alors ça, c'était dans les années 60. Depuis, les choses ont un peu évolué. Il y a moins de jukebox déjà. Bonjour Armelle Lévy.
Bonjour.
Alors comment ça se passe aujourd'hui côté argent de poche? Les parents donnent combien en moyenne à leurs enfants?
Ils donnent 33 euros par mois, mais il y a des différences, disons, culturelles. Ce sont les enfants corses les plus gâtés, avec 50 euros par mois, à l'inverse des jeunes bretons et des normands qui reçoivent 28 euros par mois. Après, on donne aussi différemment selon l'âge. Cela va de 23 euros tous les mois pour les 10-12 ans à 41 euros pour les 16-18 ans. On remarque aussi que les papas donnent un petit peu plus que les mamans. Mais le grand changement, le vrai changement, avant, quand vous étiez enfant, vous alliez à la boulangerie acheter des bonbons avec un billet ou de la petite monnaie. Eh bien maintenant, les enfants payent avec leur porte-monnaie électronique, leur smartphone ou avec leur carte bancaire. Donc oui, ils apprennent à gérer leur épargne, mais moins à compter avec leurs petites pièces.
Et ça change effectivement. Merci Armelle. Pour aller plus loin, nous sommes avec Stéphane Clergé, psychiatre. Bonjour.
Bonjour.
On s'interroge avec vous sur le lien que ça peut créer, cet argent de poche entre parents et enfants. D'abord, à quel âge est-ce qu'il faut, si on le souhaite, commencer à donner de l'argent comme ça à ses enfants?
À partir du moment où ils savent compter, c'est-à-dire en général à partir de l'école primaire, mais rien n'empêche de donner quelques pièces aux enfants qui sont en maternelle, ne serait-ce pour qu'ils apprennent à savoir ce que c'est et qu'ils comprennent un peu les échanges qu'on peut avoir avec les commerçants.
Et à quoi doit servir l'argent qu'on leur donne ?
Ben, il doit surtout servir à leur apprendre à s'en servir, à savoir que ce qui est intéressant dans l'argent de poche, qu'on le donne régulièrement ou pas, c'est d'avoir un peu une tirelire et d'apprendre à déjà oser aller acheter quelque chose, hein, présence ou stress, et aussi à mettre de côté, à gérer leur argent finalement. Et ce qui est pour les parents, c'est de voir qu'il y a des gens particulièrement dispendieux dont l'argent file entre les mains et d'autres qui au contraire vont pas oser s'acheter quoi que ce soit et mettre de côté. Et finalement, nous, en tant que parents, on va un peu les éduquer pour éviter ces deux extrêmes.
Et ça, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous donnez de l'argent à un petit enfant, il ne le dépense pas. Vous donnez de l'argent à un autre, il le dépense tout de suite. Vous diriez que c'est naturel ou culturel ?
L'éternelle question. Il faut regarder du côté des parents et voir eux-mêmes comment ils fonctionnent. Est-ce qu'un des deux parents dépense trop ? Est-ce que l'autre est trop économe ? Et ça renvoie évidemment au modèle parental, mais aussi à la construction d'une personnalité. Et certaines personnalités sont plus dépensières et d'autres le sont moins. Donc,
ça ne nous a pas échappé. Mais est-ce qu'on est radin ou est-ce qu'on le devient ? C'était un...
D'après les connaissances actuelles, on ne naît pas radin. On le devient parce que ça nous rassure.
Stéphane,
oui, c'est rassurant.
Stéphane Clergé, on parle justement de cet apprentissage. Est-ce que cet argent de poche, il doit être gratuit ou est-ce que ça doit être une contrepartie de services rendus, par exemple, comme une forme de salaire que les parents donneraient à leurs enfants pour des tâches ménagères ?
Alors, on voit les deux, en effet, mais les deux ne sont pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut donner de l'argent aussi gratuitement. Je crois que c'est aussi intéressant de le faire, encore une fois, ne serait-ce que pour apprendre à son enfant à l'utiliser ou pas, d'ailleurs. Mais on peut aussi, comme un cadeau, finalement, comme on remercierait, comme on flatterait ou comme on donnerait un petit cadeau matériel, donner une pièce pour un service rendu qui ne fait pas partie des obligations. Si l'enfant habituellement n'arrose pas les plantes et qu'il le fait, on peut, pour le remercier, soit simplement lui dire merci, soit lui donner une pièce. L'idée, c'est aussi de ne pas avoir un rapport trop tabou avec l'argent.
Mais c'est pas mal, par exemple, effectivement, tu tonds la pelouse et je te donne 10 euros. Faut le faire ou pas ?
Oui. C'est bien. On peut le faire, on n'est pas obligé, mais pourquoi pas. C'est
on a parlé du radin, mais l'enfant à 10 ans qui dépense tout, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'il a la crainte finalement de ne pas pouvoir garder cet argent et de ne pas pouvoir en profiter demain. C'est comme les personnes qui mangent trop vite, comme si elles n'allaient pas avoir à manger demain. Mais ça peut être aussi des enfants
ils
qui
veulent
ont
plaisir
beaucoup
tout
de mal
de suite.
Exactement, qui sont dans le plaisir immédiat et qui ne sont pas dans l'idée que si je mets plus de côté, je pourrais avoir un plaisir encore plus grand demain.
Merci beaucoup Stéphane Clergé. Économiser, c'est pas inné, c'est ce qu'on a compris. Merci.
Non, mais le rapport à l'argent, évidemment, pour le psychiatre que vous dites, que vous êtes, en dit beaucoup sur les personnalités, forcément. Merci en tout cas, merci beaucoup. C'était RTL Midi Votre Ville. Il faut revenir dans quelques instants avec le journal et nous allons donc parler de Jean-Luc Godard avec cette formule qui est passée et restée dans l'histoire, les professionnels de la profession. Il est 12h27, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro. Céline Landreau. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h30.
RTL Midi.
Le 12h30.
Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous, Céline Landreau.
Un millier de policiers et gendarmes mobilisés ce soir à Marseille pour le match de Ligue des Champions contre Francfort. 8000 supporters allemands sont attendus et déjà des tensions sur le Vieux-Port. La disparition de Jean-Luc Godard, monument du cinéma français. Chantal Goya sera notre invitée pour lui rendre hommage dans LVT Midi à 12h50. Le Comité national d'éthique ouvre la voie à la légalisation de l'euthanasie. Son rapporteur Alain Claes sera notre invité à 12h40. C'est d'ailleurs l'objet de notre question du jour sur RTL.fr. Parlez-vous du sujet de la fin de vie avec vos proches. Et puis Gaël Perdriau en garde à vue. Le maire de Saint-Étienne, accusé de chantage aggravé à la sextape, fait aussi l'objet d'une procédure d'expulsion de la part de son parti, Les Républicains.
Autant de sujets que nous pourrons évoquer à partir de 13h avec avec les auditeurs, je rajoute l'argent de poche. Parce que ça, c'est un sujet qui peut vous intéresser. Combien vous donnez d'argent de poche à vos enfants entre 6 et 18 ans? Appelez-nous au 3210.
La météo à la fin du journal, comme d'habitude, avec vous, Peggy Broche. Déjà un indice?
Un temps lourd, gris et orageux.
Merci, Peggy.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Un millier de policiers et gendarmes mobilisés donc ce soir pour un match à haute tension à Marseille. L'OM reçoit Francfort en Ligue des Champions. 8000 supporters allemands attendus, déjà des échauffourées la nuit dernière. Et ça se tend actuellement sur le Vieux-Port, Étienne Baudu.
Absolument, il y a une petite demi-heure, hein, entre 300 et 400 supporters allemands ont investi d'un coup un seul 5 terrasses de restaurants, cour d'Estiendorf, juste derrière le Vieux-Port, sans rien dire, hein, sans rien demander, tous de noirs vêtus. Immédiatement, des gendarmes mobiles casqués ont encerclé la place pour éviter toute échauffourée. Alors, ces supporters sont en règle, hein, puisque l'arrêté préfectoral interdit dans le centre-ville la déambulation de supporters qui se prévalent de leur club. Ici, pas un seul maillot aux couleurs de l'Eintracht. Alors, les gendarmes viennent à l'instant de poser le bouclier à terre. Et Hakim, qui tient un bar à proximité du Vieux-Port, espère que la situation ne dégénérera pas.
Il y a eu un peu des incidents déjà hier soir. J'ai mes collègues confirmés un peu plus tôt que prévu en catastrophe. Mais bon, j'espère que ça va être la fête, qu'aujourd'hui ça va bien se passer. Et là, on est pareil, on est tendu en fait. On travaille, on est sur le qui-vive, on attend.
Pour l'instant,
tout va bien. C'est la fête, on boit le coup, c'est super. Hein.
Alors les Allemands, ceux qui ont un billet en règle, commencent à se regrouper sur une place proche du centre-ville. À partir de 17h, ils seront acheminés en bus vers le stade pour éviter tout contact en fait avec les Marseillais. Quant aux supporters de l'OM que j'ai croisés, ils espèrent tous une belle fête ce soir, quoi qu'il en soit, pour le retour de la Ligue des Champions au stade Vélodrome.
Étienne Baudu en direct de Marseille pour RTL. Pour le sport, le vrai, le coup d'envoi sera donné à 21h. Ce sera à vivre évidemment dans les flashs d'informations sur notre antenne. Et pour les passionnés, direct commenté sur notre site rtl.fr. L'avant-match, ce sera même dès 20h.
RTL Midi.
C'était le plus iconoclaste des cinéastes de la nouvelle vague, selon Emmanuel Macron. Jean-Luc Godard est décédé, il avait 91 ans.
Et il laisse derrière lui des films qui auront marqué les années 60, À bout de souffle, Le Mépris, Pierrot le Fou. Il a fait tourner Brigitte Bardot, Jean-Paul Belmondo, Eugène Seeberg, mais Stéphane Boutsock. Godard, c'était aussi une voix, un franc-tireur qui n'a jamais hésité à dire ce qu'il pensait.
Alors vous savez, il y a une phrase qui résume tout ça. On propose un jour à Godard de recevoir l'Ordre du Mérite. Il refuse et il dit « il y a deux raisons. D'abord, je n'ai aucun mérite. Et ensuite, je n'ai d'ordre à recevoir de personne. » Voilà. Franc-tireur, oui, sniper même. Ses interviews, quand il en donnait, c'était des morceaux de bravoure, presque des dialogues de films. Écoutez-le, on est en 2018, il intervient au Festival de Cannes, on lui remet une palme d'or spéciale d'honneur. Il vient pas, il fait ça par smartphone. Et quand il parle des acteurs et de la politique, ça donne ça.
« En faisant de la politique un domaine de pensée séparée, les démocraties modernes contribuent au totalitarisme. Eh bien, je pense que beaucoup d'acteurs aujourd'hui contribuent au totalitarisme de l'image filmée. »
Voilà, c'est dit. Une petite dernière, quand on lui demandait « Quelle est votre plus grande ambition ?» Godard répondait « Devenir immortel et puis mourir.
» Merci beaucoup Stéphane Boutsock. On vous retrouve évidemment à 12h50 dans LBT Midi, ouais, avec Chantal Goyat
qui avait joué dans
tourné.
Masculin féminin.
Et avec Jean-Pierre Léo. Godard dans les années 60, avant qu'elle devienne une autre figure. Emmanuel Macron annonce le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie. Je l'ai dit depuis à midi, c'est un sujet qui fera réagir les auditeurs comme à chaque fois.
Oui, puisqu'un nouveau cadre légal pourrait être posé d'ici la fin 2023. Une consultation qui intervient après la publication ce matin de l'avis du Comité national d'éthique qui se dit favorable à une légalisation de l'euthanasie sous conditions strictes. Aujourd'hui, la loi ne permet qu'une sédation profonde et continue, uniquement en cas de maladie grave et incurable, avec un pronostic vital engagé à court terme. Un cadre insuffisant aujourd'hui pour Claire Fourcade. Elle est présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Il suffit, selon elle, de l'appliquer correctement.
Pour les gens qui vont mourir, qui sont ceux dont s'occupent les soins palliatifs, c'est pas de loi qu'on manque actuellement, c'est de moyens. 2/3 des patients actuellement qui en auraient besoin n'ont pas accès aux soins palliatifs. Ça représente quand même 200 000 personnes chaque année. Et ces 200 000 personnes qui pourraient être soulagées et accompagnées ne le sont pas. Clairement, il y a là une priorité, quoi qu'on fasse. Il y a une priorité absolue. Faire une nouvelle loi et dire qu'on mettra des garde-fous à cette nouvelle loi alors qu'on n'a pas été capable d'appliquer la précédente, c'est probablement un peu risqué. Mais en tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est les moyens qui nous manquent plus que la loi.
Des propos recueillis pour RTL par Virginie Garin et on reparle de ce sujet sensible après le journal avec Alain Claisse, c'est le rapporteur de l'avis du comité d'éthique sur la fin de vie.
En garde à vue, lâché par son camp, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, semble aujourd'hui complètement acculé.
Accusé de chantage politique à la sextape par son ancien premier adjoint Gilles Artigues, le maire de Saint-Étienne est entendu depuis ce matin par les enquêteurs à Lyon. Il a été placé en garde à vue avec quatre autres protagonistes et sa famille politique prend aussi ses distances. LR à lancer une procédure d'expulsion. Aurélien Pradier, le secrétaire général du parti, candidat à la présidence.
Évidemment que ces agissements ne sont pas compatibles avec les valeurs de notre famille politique, mais comme d'ailleurs avec aucune valeur politique, avec aucune valeur démocratique. Le chantage, les méthodes mafieuses, ça n'a pas sa place dans la vie politique. Aujourd'hui, son comportement inacceptable, injustifiable, dont les éléments de preuve paraissent véridiques, ne pouvait pas durer plus longtemps. Il va être exclu. Il lui reste l'autre explication à donner. C'est auprès de ses concitoyens, comme maire, et auprès de la justice qui va ouvrir la procédure.
Aurélien Pradier, joint pour RTL par Marie Mollet.
C'est peut-être l'étape la plus difficile de la tournée du roi Charles III qui l'attend cet après-midi.
Puisque le nouveau souverain est attendu en Irlande du Nord, où les nationalistes ne cessent de progresser, et alors que lui-même a une histoire personnelle très douloureuse avec les républicains irlandais, Marie Billon.
Oui, alors que Charles avait 31 ans, celui qu'il appelait son grand-père honoraire a été tué dans un attentat de l'IRA. Ce fut un moment d'intense tristesse pour le prince qui s'est senti très seul. C'est après ça qu'il s'est rapproché de Diana et lui a rapidement demandé de l'épouser. Mais en tant que prince de Galles, Charles s'est rendu 39 fois en Irlande du Nord et en 2015, il a même serré la main d'un des plus célèbres ex-représentants de l'IRA. Sa mère, Elisabeth II, avait fait de même 4 ans plus tôt, ouvrant la voie à des relations pacifiées qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, l'île d'Irlande est toujours divisée entre les unionistes qui veulent rester au sein du Royaume-Uni, pro-monarchie, et les républicains nationalistes. Ces derniers ont refusé d'assister à la proclamation du nouveau roi, mais ils seront présents cet après-midi à la cérémonie qui se tiendra au château d'Hillsborough, car c'est en hommage à la reine. Charles III devra répondre au message de condoléances qui lui sera adressé. Et c'est là aussi, et après, dans un bain de foule qui suivra, qu'il devra prouver aux Irlandais du Nord que leur place au sein du Royaume-Uni est au cœur de ses préoccupations, tout comme il l'était sous le règne de sa mère.
Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. La dépouille d'Elisabeth II quittera Édimbourg et l'Écosse en fin de journée pour regagner Buckingham Palace à Londres. Buckingham où les frères William et Harry sont affichés ensemble. Peuvent-ils se réconcilier? C'est le sujet du focus de la rédaction que vous pouvez retrouver sur notre site rtl.fr et toutes les plateformes dédiées.
Après l'Ukraine, un autre ex-satellite de l'URSS risque de plonger à son tour dans la guerre.
Les affrontements se multiplient entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Près de 50 soldats arméniens ont été tués ces dernières heures, alors que les deux pays, Bénédicte Tassar, se disputent l'enclave du Haut-Karabakh.
Oui, c'est une région montagneuse, une enclave de l'Azerbaïdjan peuplée d'Arméniens, une zone qui se disputait, qui est disputée donc par ces deux pays depuis l'éclatement de l'URSS. Première guerre dans les années 90, 30 000 morts. Second conflit en 2020, 6 500 morts. Un conflit perdu par l'Arménie qui a donc cédé des pans entiers de territoire. Un cessez-le-feu avait alors été négocié sous contrôle de la Russie. Depuis quelques mois, ce cessez-le-feu est sur la table des négociations pour être transformé en véritable traité de paix. Mais les habitants vivent actuellement très difficilement entre pénurie de logements, coupure d'eau et cette influence croissante de Moscou. Emmanuel Macron vient d'appeler le Premier ministre arménien. Il réclame le respect de l'intégrité du territoire arménien. La France qui va saisir le Conseil de sécurité de l'ONU pour éviter une nouvelle guerre.
Bénédicte Tassar, chef du service étranger d'RTL, merci.
En voilà un qui a pris Christophe Galtier au mot et qui a le sens de la communication et de la publicité. L'aventurier capitaine Rémy a décidé de faire Paris-Nantes. En char à voile.
Un défi en réaction évidemment à la boutade controversée de l'entraîneur du PSG en pleine polémique sur le déplacement en jet de son club pour affronter le FC Nantes. Capitaine Rémy est donc parti ce matin du Parc des Princes.
C'est un tricycle avec trois roues, il y a un siège allongé. À la roue avant, il y a des pédales qui nous permettent d'avancer et au-dessus de moi, j'ai une voile de 5 mètres. C'est un peu compliqué au début parce qu'il n'y a pas de guidon, il n'y a pas de volant. En fait, la direction se fait au niveau des pieds, au niveau des pédales. Moi, je suis écolo, je suis militant, j'ai envie de montrer que un autre monde est possible. Évidemment, le char à voile, c'est une boutade. Moi, je vais faire la blague jusqu'au bout. Mais il existe déjà des moyens comme le TGV. Ça s'appelle un train. Et donc, ça serait bien que les élites, les puissants, ceux qui ont de l'influence, montrent l'exemple ou en tout cas soient conscients de ce que le monde va devenir. Ouais.
C'est quoi l'itinéraire ?
Il y a 550 km de pistes cyclables entre Paris et Nantes. L'idée, c'est de longer la Seine, puis à partir d'Orléans, de longer la Loire jusqu'à Nantes. Souhaitez-moi bonne chance, j'ai envie de dire.
Bonne route alors.
Ouais, merci.
Et un beau klaxon.
Oui, c'est ça qui est important, parce que je me demandais par où il va passer. Parce
qu'il
va
pas
prendre, il va pas prendre la 10 ou la 11, donc il va passer par les pistes cyclables. Bah, écoutez, il n'est pas arrivé, le capitaine
on
Rémy.
On sent que vous l'encouragez, Pascal. Le capitaine Rémy qui était au micro RTL de Nicolas Burnand.
On pourra l'appeler ces prochaines heures, pourquoi pas.
La météo, on vous retrouve Peggy Broche, il aura du vent, capitaine Rémy, ça s'annonce comment cet après-midi ?
Il y aura du vent sur les bords de Manche, mais sinon ailleurs, c'est vrai que c'est un temps orageux, gris, avec des averses et des orages qui seront particulièrement forts vers le Languedoc. On va les retrouver aussi, ils vont se mettre en place entre les Pyrénées, le Massif central, en allant vers le Grand Est en soirée. Des fortes pluies également entre le Poitou et la région parisienne en soirée. Bref, les seules régions où il n'y aura pas de pluie et où le soleil résistera avec un léger voile, ce sera sur la façade est, le tout sous des températures encore élevées, de 22 à 27 près de la Manche, 26 à 30 ailleurs et 30 à 33 dans le sud-ouest.
Merci beaucoup Peggy.
Et dans un instant, Alain Clès qui vient d'entrer dans ce studio, nous parlons évidemment de la fin de vie avec le rapport du comité d'éthique.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
J'avais pensé à me suicider. Si je me loupais, c'était pire pour mes enfants et mes petits-enfants. Là, je m'en vais. Je vais leur faire beaucoup de peine. Mais c'est ça, définitivement, je les libère, entre guillemets.
Le témoignage de Paul, 84 ans, qui avait décidé de mourir en Suisse. RTL avait suivi ce Français début janvier dans un pays où le suicide assisté est autorisé. On vous fait réentendre ce témoignage aujourd'hui alors que le comité d'éthique ouvre la porte à la légalisation de l'euthanasie en France. Une aide active à mourir, strictement encadrée. Emmanuel Macron lui annonce le lancement d'une large consultation citoyenne. Pour en parler avec nous, Alain Clès, rapporteur de l'avis rendu ce matin par le comité d'éthique. Bonjour.
Bonjour.
Cet avis ouvre donc la voie à une possible légalisation de l'euthanasie, même si vous, vous préférez parler d'aide active à mourir.
Je vais répondre très directement à votre question, mais l'avis est plus large que cela. On s'est posé la question au CCNE, au Comité consultatif national d'éthique, si l'aide active à mourir était éthique, était acceptable. Le CCNE avait commencé il y a quelques années à réfléchir sur des situations exceptionnelles. Notre réponse aujourd'hui est de dire que si le législateur décide de faire évoluer la loi, nous sommes favorables à l'aide active à mourir sous réserve d'un certain nombre de questions strictes que nous avons formulées dans l'avis. Que la personne soit une personne autonome au moment de sa demande, qu'elle soit majeure et que sa demande puisse être réitérée et analysée par, j'allais dire, une démarche collégiale, interdisciplinaire, avec, à la fin, une prescription, bien sûr, du médecin, et avec aussi la possibilité pour les personnes de soins de faire jouer la clause de conscience. Ça, c'est l'aide active à mourir, ce qu'on appelle le suicide assisté. Mais dans l'aide active à mourir, il y a un autre cas de figure. C'est une personne autonome, psychologiquement, mais incapable physiquement de pouvoir faire le geste. Donc, se pose ici la question de la dépénalisation de l'acte de donner la mort. Mmh. Et l'avis du CCNE met sur la table deux possibilités. La possibilité où le médecin prend la décision avec l'avis du juge, ou alors le législateur décide de d'accepter dans la loi l'euthanasie. Donc l'aide active à mourir, deux aspects, le suicide assisté et l'euthanasie.
Alors, oui. Si vous me permettez, ce qui est étonnant peut-être, c'est que le comité d'éthique a changé sa position. Or, à 10 ans d'intervalle, or on pourrait imaginer que l'éthique précisément sur ces sujets-là ne change pas.
L'éthique ne change pas. C'est quoi l'éthique ? Sur ce sujet particulier, c'est la tension entre deux notions qui sont fondamentales en éthique. L'autonomie d'un côté, la personne, et la solidarité de la société vis-à-vis de cette personne.
Mais il y a 10 ans, c'était la même chose.
Et aujourd'hui, quelle est la difficulté ? Au-delà de l'aide active à mourir, cette solidarité de la société fonctionne mal. Il y a eu 4 lois depuis 20 ans. 99, les soins palliatifs. On sait très bien, vous êtes observatrice de les politiques de santé, dans 10 départements, il n'y a pas de service de soins palliatifs.
C'est ça, aujourd'hui, un patient qui en aurait besoin sur 5, un sur 5 seulement, il y a accès.
Vous avez tout à fait raison. Il n'y a pas de soins palliatifs à domicile, ou très peu. Il y a par exemple des expériences à l'HP de Paris, où on va faire des soins palliatifs à domicile, mais c'est extrêmement rare. Donc, soins
palliatifs. Mais il y a une loi aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant dans ce débat aujourd'hui, c'est pourquoi on change la loi. Je rappelle que la fin de vie encadrée est précisément par la loi Claeys-Leonetti. Oui. Elle a été adoptée en 2016, après une première version en 2005. Elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une sédation profonde et continue jusqu'au décès pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance dont le pronostic vital est engagé à court terme. Ça, c'est la loi. Pourquoi elle a changé ?
Alors, je la connais un peu parce que...
Oui, mais pourquoi la changer ?
Je vais vous répondre. Je vais vous répondre très, très concrètement. La loi ne traite pas l'euthanasie et le suicide assisté, la loi de 2016. Mais, comme vous l'avez rappelé, justement, ça concerne des personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme.
C'est tout ça l'enjeu, c'est le court terme.
Tout l'enjeu est court terme. Je pourrais dire la loi qu'on a fait voter est parfaite, etc. En travaillant, en regardant ce qui se passe, on constate des cas de personnes dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, mais à moyen terme, disons 6 mois, où peut se poser une demande d'aide active à mourir.
Ça, c'est clair.
Et donc, voilà.
Donc, voilà pourquoi
ça évolue. J'insiste, parce que vous le disiez tout à l'heure, il faut que le législateur, nous, on ne fait qu'un conseil, on apporte notre avis, on essaye d'être utile, ne pense pas que on règle le problème de la fin de vie uniquement par l'aide active à mourir. Aujourd'hui, dans nos hôpitaux, grâce à cause de la T2A, on privilégie souvent l'acte technique au détriment de l'accompagnement de la personne. Et je crois qu'aujourd'hui, nos concitoyens, ils demandent 2 choses. Être accompagné dans tout ce processus long de fin de vie. Et d'autre part, la mobilité. On ne veut pas forcément mourir à l'hôpital.
Et Emmanuel Macron annonce le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie. Pardonnez-moi évidemment de vous interrompre, c'est un sujet. Vous pourriez rester, pourquoi pas d'ailleurs, avec nous, avec les auditeurs et échanger avec eux. Mais pour le moment, nous allons parler cinéma dans une seconde.
RTL Midi, Céline Landreau et Pascal Pro. RTL.
Laissez-vous tenter midi.
Et un laissez-vous tenter forcément en particulier en cette journée où l'on a appris la disparition de Jean-Luc Godard, cinéaste phare de la nouvelle vague. Stéphane Boutsock, vous êtes évidemment avec nous. Rebonjour.
Rebonjour.
Avec les premières réactions de 2 acteurs qui ont beaucoup tourné avec Jean-Luc Godard et pas n'importe lesquels.
D'abord Brigitte Bardot, on se souvient évidemment du mépris en 1964. Brigitte Bardot qui vient de tweeter ces quelques mots et Godard créa le mépris et c'est à bout de souffle qu'il a rejoint le firmament des derniers grands créateurs d'étoiles. Alain Delon, comme à son habitude, a réagi par un communiqué à nos confrères de l'AFP. Merci Jean-Luc pour les beaux souvenirs que tu nous as laissés. Sache que je serai toujours fier d'avoir Nouvelle Vague dans ma filmographie. Nouvelle Vague, c'est 1990, la rencontre de Godard.
Et Chantal Goya est avec nous. Bonjour Chantal Goya.
Bonjour.
Merci avant d'être présente, avant d'avoir été la chanteuse qu'on connaît tous. Vous étiez actrice et égérie, notamment pour Jean-Luc Godard. Vous avez partagé l'affiche de Masculin-Féminin aux côtés de Jean-Pierre Léo. Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ? Nous sommes en 1966.
Moi, je dis que c'est un grand génie de la caméra, des images, de la mise en scène et puis de cette belle intelligence visionnaire qu'il avait. C'est quelqu'un d'exceptionnel, hors norme. On n'avait pas de scénario, on tournait avec tout ce qu'il pouvait ressentir de ce qu'on avait en nous. C'était là son grand génie. Et moi, je suis triste parce que je l'aimais beaucoup. Je n'ai jamais pu le rencontrer après. Il y a 3 ans, je n'étais pas loin, je voulais le voir. J'ai rencontré Jean-Pierre Léo, je lui ai dit « Tu devrais aller le voir parce qu'il t'aime beaucoup. » Et finalement, Jean-Pierre m'a dit un grand secret, qu'il n'était pas loin de chez lui, qu'il s'était caché. Il l'a vu passer, mais il n'a même pas osé aller le voir tellement il était impressionné. Oui, Jean-Luc Godard, c'est quelqu'un qui va nous manquer et qui est un grand génie. C'est un génie visionnaire. Il voyait tout à l'avance Il avait dans sa tête tout le film qu'il voulait tourner. Il savait après nous le mettre comme ça, par petits bouts. Non, c'est un être incroyable. J'ai eu beaucoup de chance de faire mon premier film avec lui.
Jean-Pierre Léaud figure que se partageaient Truffaut et Godard, d'ailleurs, parce qu'ils étaient jaloux, d'une certaine manière, d'une forme de paternité pour lui. Vous aviez 19 ans, vous étiez né d'une famille bourgeoise et vous vous retrouvez dans un film interdit au moins de 18 ans. Godard était subversif.
Et dans tout Paris, il y avait le magazine Candide qui mettait en une mon visage et marquait en gros « Ces horribles petites françaises sont-elles vos filles ?» Ça commençait bien ma carrière.
Effectivement.
C'était quel magazine ? Candide ?
Candide.
Candide.
Dans les... Candide.
Bah écoutez, Candide. Ça vous a plutôt porté.
Et moi, je passais en voiture et je me souviens, j'arrachais toutes les affiches pour pas que mes parents le voient sur tous les arbres de Paris. Et non, ils nous appelaient la génération Coca-Cola et Karl Marx. Mais moi, je trouve que ce film aurait dû être vraiment à l'époque pour les 18 ans et plus, mais pas pour les parents, du coup. Oui. C'est ce que j'avais dit à un grand journaliste. Et c'est vrai que ce film a beaucoup interpellé beaucoup de monde, parce que c'était un ménage à trois, je m'en étais même pas rendu compte à l'époque. Marlène Jobert est une amie, je la trouvais hyper sympa avec moi, mais forcément, elle est amoureuse de moi. Et puis Jean-Pierre Léaud est amoureux de moi, et moi, je ne l'avais pas dit à l'époque, j'étais enceinte de mon fils, j'avais tourné enceinte de 5 mois, ça ne se voyait pas. Mais j'étais très pudique et je voulais pas être à poil. Il m'avait dit « Vous serez jamais une vedette ». Je dis « C'est pas grave, j'en ai une à la maison, c'est ma machine à laver. » Alors avec ça, je peux vous dire que j'avais conquis. Et c'est quelqu'un que j'aime tellement, que j'aimais beaucoup et il va beaucoup nous manquer. Mais enfin, toute son œuvre va rester. C'est vrai qu'à bout de souffle, j'appelle Belmondo, que j'aimais tellement, et Jean Seberg, merveilleuse. C'était des films voilà, comme on aimerait voir encore aujourd'hui.
Racontez-nous votre premier rendez-vous avec Jean-Luc Godard. Je crois que c'était dans un café et qu'il vous a regardé un peu bizarrement.
Oui, c'est-à-dire qu'on est en 64 et puis on est au bar des théâtres des Champs-Élysées. Il faut vous dire aussi que j'avais été approchée par Daniel Filipacchi, qui doit être très triste aujourd'hui, parce qu'il est toujours là, Daniel. Et Daniel m'avait demandé j'avais vu pour être journaliste, pas du tout être connue. Et il me dit « Tu as fait une télé dernièrement grâce à une chanson que j'ai produite, mais Jean-Luc Godard veut te voir, rendez-vous demain. » Et là, je voyais un monsieur en imperméable, je me dis « C'est pas possible, ça peut pas être lui. » Puis ma mère m'avait raconté une idée invraisemblable, elle m'avait dit « Tous les hommes en imperméable, ils sont tous à poil en dessous, alors fais gaffe. »« Oh, vas-y, ça commence bien. » Et puis il se tournait la tête, puis à un moment, il est venu vraiment face à moi, il m'a dit « Je vous ai observé depuis 20 minutes, ça y est, vous êtes Madeleine, l'héroïne de mon film, on commence demain. » Et là, j'étais ahurie parce que je lui avais dit « Ah, on va avoir un maquillage. » Vous savez, moi, dans ma tête, on se maquillait pour faire un film. Il me dit « Non, non, reste naturel, restez avec vos vêtements naturels, vous êtes vous-même. » Et puis, Claude Miller est venu alors qu'il était inconnu, dans une deux chevaux, me prendre à Nogent-sur-Marne. Et puis, je suis partie à la Villette, dans un petit café où j'ai rencontré Marlène, que je connaissais bien à l'époque. Et puis, j'ai rencontré Jean-Pierre Léaud, que, évidemment, j'avais vu ses films. Et puis, tout d'un coup, il nous installe, voilà comment il tournait, il nous installe à une table de bistrot, on boit un café, la porte s'ouvre et c'est Brigitte Bardot qui rentre. Alors là, c'est la lumière la plus incroyable qui rentre. Et nous tous les trois, on dit « Ah, Bardot, Brigitte Bardot !» Et ben voilà, la scène était tournée.
Chantal, Stéphane Boutsack.
Oui, dernière chose, Chantal Goya, faut quand même rappeler que c'est Jean-Jacques Debout qui a composé la musique du film, et vous interprétez, vous, 6 chansons, dont celle-ci qui s'appelle, c'est un document, « Si tu gagnes au flipper
oui. ».
De masculin féminin. Donc.
Merci oui, Chantal vrai. Goya, quel plaisir, quelle fraîcheur.
Et moi j'ai sorti un vinyle qui s'appelle Mes années Godard.
Absolument.
J'ai demandé l'autorisation et il m'a dit absolument ma petite Chantal et je ne l'ai plus jamais revue après.
Quel plaisir, quelle fraîcheur, quelle jeunesse. Jean-Jacques Debout va bien, Chantal ?
Jean-Jacques va très bien, il prépare un album et surtout un livre très drôle qui va s'appeler La couleur des fantômes. Tous les amis qu'il a connus et qui ne sont plus là, hélas.
Eh bien, vous l'embrassez pour nous. Il est 12h59, la pause.
RTL Midi.